When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Thomas Rozek. La semaine passée, nous vous proposions d'entendre le témoignage de Monique Simard, figure du féminisme québécois, mais aussi du monde de la culture et de l'univers syndical là-bas, qui est surtout l'une des grandes témoins des intenses bouleversements qui a traversé le Québec dans les années 60 et 70. Un bouillonnement lié en grande partie aux questions d'indépendance, qui travaillent fortement la génération des baby-boomers québécois, au point que certains vont choisir carrément la violence pour faire entendre leur désir d'autonomie. Robert Comeau en fait partie. Il est historien, président de la Société historique de Montréal, mais il a surtout était membre du FLQ, le Front de Libération du Québec, une organisation terroriste responsable de plusieurs attentats d'enlèvement, l'un d'entre eux s'étant conclu par la mort d'un membre du gouvernement québécois, le ministre du Travail Pierre Laporte, en octobre 70, l'apogée de la crise dans la province. Robert Comeau a bien voulu nous raconter son histoire et c'est notre discussion, réalisée par Vincent Hiver, qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Petite précision avant toute chose, dans cet entretien, Robert Comeau nomme et met en cause directement plusieurs personnes. Il va de soi que ses propos et son analyse des choses n'engagent que lui.
Bon, alors, la Révolution tranquille, moi j'avais 15 ans, donc je suis né en 45, et en 1960, c'est vraiment l'émancipation du Québec qui se fait sur tous les aspects, la découverte de l'État québécois. On veut cesser d'être Canadien-Français pour être maintenant Québécois. Donc, la question de la langue. Et on refuse notre statut de dominé, minoritaire. Et bon, alors, c'est un mouvement de révolte, à la fois contre l'Église, à la fois contre les Anglais, à la fois contre la Constitution. Puis, il ne faut pas oublier qu'en 1960, on approche du centième anniversaire du Canada. En 67, ouais. C'est le centième. Donc, au plan politique, tous les hommes politiques prennent des positions en disant qu'il devrait y avoir une nouvelle constitution, on devrait se donner un nouveau pays en 67 qui reconnaîtrait mieux la place du Québec. Évidemment, les plus radicaux puis les plus jeunes, moi j'en faisais partie, là. Donc en 62, j'adhère au RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui était pour l'époque, là, socialiste, indépendantiste, assez anticlérical. Oui. Parallèlement à ça, il y avait des partis nationalistes plus conservateurs, comme l'Union nationale avec Daniel Johnson. Mais les vieux partis nationalistes flirtaient un peu pour essayer de rallier les jeunes. Et de ce point de vue-là, la meilleure opération, ça a été l'arrivée de De Gaulle. C'est Daniel Johnson, d'un vieux parti, tout le monde... Et tout à coup, il s'est inspiré de Gaulle puis pour le faire venir au Québec. Et là, ça a été une opération qui a parfaitement réussi. Et nous, on voulait participer de ce truc-là.
C'est l'intérêt de De Gaulle dans tout ça, on imagine, si on simplifie un peu les enjeux de l'époque, c'est aussi quelque part de faire un peu de foutre un peu le bazar quelque part dans les relations internationales, notamment entre le Canada, son grand allié, les États-Unis, l'Angleterre, sachant que De Gaulle n'était pas très très favorable à tout ce qui était atlantiste. On va dire c'était aussi un intérêt géostratégique quelque part,
bien
cette petite
sûr,
province.
Bien sûr. Et nous, ça faisait notre affaire, ça coïncidait avec nos intérêts. Et de ce point de vue, on était très heureux que De Gaulle prenne ces positions-là, très courageuses à nos yeux.
Et donc, en 67, De Gaulle revient à Québec, parce qu'il était déjà venu au Québec, il était déjà venu pendant la guerre. Donc là, il revient. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ce qui est de plus amusant, c'est qu'au lieu de se rendre directement à Ottawa en avion, il décide de venir
en bateau.
C'était
donc le siège du
gouvernement central. Et normalement, c'est toujours le premier geste, c'est d'aller au gouvernement central, donc à Ottawa, avec Pearson, qui était au pouvoir. Il décide d'arriver en bateau avec le Colbert et d'accoster à Québec, donc la capitale du Québec. Et là, reçu par les autorités québécoises, avec les fanfares, c'était avec beaucoup, beaucoup d'éclat, si je peux dire. Et là, il décide, en voiture, de faire tout le chemin du roi, qui est un vieux terme, qui est une route qui va de Québec à Montréal par la rive nord du fleuve. Et le gouvernement avait fait dessiner sur la route des fleurs de lys partout, des drapeaux du Québec partout. C'était majestueux. Et à chaque petit village, De Gaulle descend, est reçu par les notables, même les communautés religieuses, les enfants des écoles. Il trouve toujours un parc avec un kiosque, et puis là, De Gaulle s'adresse. Et nous, du RN, on était une douzaine de membres plus jeunes, puis on voulait vraiment influencer l'événement. Alors, on avait décidé d'apprendre très précisément les paroles de la Marseillaise, parce que c'est pas connu au Québec, tous les refrains. On connaît le refrain, mais pas tous les
couplets.
Tous les couplets. Alors, on avait appris les paroles et on s'est dit, il faut se placer le plus près de où se trouve De Gaulle. Et ça a marché. À chaque fois, De Gaulle était tellement surpris qu'il se retournait pour voir qui. Et là, on avait nos affiches, « Vive le Québec libre », on criait « Vive le Québec ». On se disait, hey, on va l'influencer. Puis quand il va arriver à Montréal... On a fait ça dans tous les petits villages. Et quand on est arrivé à Montréal, là, il y avait une foule immense, parce qu'à chaque fois, dans son discours, il en mettait un peu plus. Là, il disait, je me sens comme le jour de la libération. Oui. C'était comme, mon Dieu, on est près de l'indépendance. Dans quelques mois, ça va se faire.
C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre.
Il y a eu une apothéose dans cette visite.
Bien sûr, c'est que quand il a dit « Vive Montréal », après ça, « Vive le Québec », là, c'était déjà un délire. Et le troisième, c'est « Vive le Québec libre ». C'était comme un tabou, l'indépendance. Les gouvernements n'en parlaient pas. Les journaux essayaient d'éviter de parler. C'était marginal encore. Mais que De Gaulle lance ça. D'ailleurs, le maire de Montréal était... complètement...
tétanisé à côté.
Il dit, écoutez, vous venez de lancer le slogan d'un parti indépendantiste qu'on combat. Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Et tout de suite, les autorités politiques du Canada ont dit qu'il était non grata à Ottawa, qu'il s'en retourne en France. C'était... Puis même le Quai d'Orsay comprenait pas du tout le geste général. C'était vraiment... Et là, j'ai lu beaucoup dans les livres là, sur l'événement, et c'était prémédité. Là. Il y en a qui disent... sous l'effet de la foule.
Ouais, sur l'euphorie,
il savait qu'il faisait un geste d'émancipation pour le Québec. Mmh. Et ça, les Québécois, à chaque année, célèbrent au mois de juillet la visite de De Gaulle. C'est un geste important au niveau du soutien, puis au niveau international, parce que la cause du Québec a été connue là, rapidement, parce que tous les journaux du monde ont parlé de De Gaulle.
Cette sortie.
De Gaulle parlait de l'émancipation, de l'indépendance. C'est à partir de ce moment-là que les journaux ont commencé à dire « Ah, il y a un mouvement indépendantiste ». Et ça a donné l'idée à René Lévesque, qui était un libéral, donc dans le Parti libéral, qui avait fait les réformes, de quitter le Parti libéral pour former le mouvement Souveraineté Association, qui va devenir Parti québécois. Donc, le geste de Gaulle s'inscrit dans une conjoncture, surtout que la même année, 1967, les notables plus conservateurs ont formé les États généraux. Ça fait un peu ancien comme terme, ou un peu révolution française. Et dans les États généraux, pour la première fois, là, on revendiquait l'indépendance. Alors, le Parti québécois s'est senti appuyé non seulement par la gauche, mais aussi par les élites, les notables plus conservateurs. Et il a donc formé le Parti québécois qui est devenu un des deux grands partis. Le Parti libéral a continué, mais le Parti libéral est devenu de plus en plus le parti des anglophones.
Oui.
Fondamentalement, René Lévesque, ce qu'il voulait, c'est créer un rapport de force pour que le gouvernement fédéral dise, bon, on va s'asseoir à une table et on va négocier une nouvelle constitution. Et vous savez ce qui est arrivé dans l'histoire. Il arrive un personnage vraiment important, c'est Pierre-Éliott Trudeau.
Qui était le premier ministre, qui a été plusieurs fois premier ministre.
C'est ça, mais à ce moment-là, il était seulement le secrétaire. Et lui arrive à la société... au défilé de la Société Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, le 24 juin. Ça s'est déroulé la veille de l'élection. Il y a eu une émeute. Les gens ont lancé des bouteilles sur où était Pierre-Éliott Trudeau. Tout le monde s'est caché, sauf lui. Donc, il est devenu le héros du Canada anglais. Et le lendemain, il y avait des élections. Puis il a dit, moi, je vais écraser le mouvement indépendantiste. Donc, il a vraiment été élu en 68 par tout le Canada anglais pour mettre fin à ça. Alors, à partir de ce moment-là, le climat a changé.
À l'automne 1962, le sigle FLQ apparaît un peu partout sous forme de graffiti dans les grandes villes du Québec. Une nouvelle organisation indépendantiste est née, le Front de libération du Québec.
Le Front de libération avait commencé en 63, une première vague en 63, tout le monde s'est fait arrêter. Une deuxième vague en 66 avec Pierre Vallière et Charles Gagnon. Pierre Vallière va plus tard aller au Parti québécois, puis Charles Gagnon va former un groupe maoïste. Moi, je suis plus Charles Gagnon, qui est décédé aujourd'hui. Donc, il y a eu deux vagues, et de cette période-là, il y a eu quand même 25, on appelait 25 prisonniers politiques, mais oui. 25 personnes
25 personnes qui étaient emprisonnées. Alors, nous, pour leur combat en faveur du Québec.
Notre premier objectif dans le FLQ, donc moi, je ralliais un peu avant la crise d'octobre de 70, donc en 68-69, il y avait donc des procès qu'on appelait des procès politiques de Vallière, de Gagnon, de l'époque de 66, et ça traînait. C'est des procès qui traînaient en longueur. Moi, j'amenais mes étudiants à assister aux procès, c'était révoltant, ça nous politisait parce que les juges n'écoutaient pas, ils dormaient, faisaient... Et on voyait qu'il n'y avait pas une justice, réelle. Et en même temps, la volonté de faire sortir de prison les camarades qui étaient en prison. Et c'est ça, le FLQ de 70, c'était pas la révolution, on était bien trop peu nombreux, et c'est pas du tout un mouvement de masse, il faut être clair. C'est une forme aujourd'hui que j'appuie pas, mais à l'époque, ça exprimait une certaine exaspération.
Oui.
Surtout qu'il y avait une conjoncture, le maire de Montréal, qui était drapeau, ça faisait longtemps qu'il était là, et là, il devenait de plus en plus despotique, interdisait les manifs dans la ville. On disait donc qu'il n'y a plus de démocratie. Les gens qui étaient soupçonnés d'être dans les FLQ, on pouvait les arrêter. Il y avait même on donnait de l'argent pour les délateurs et tout ça. Donc, il y a eu des bombes là, qui ont commencé vers 60 et de 63 jusqu'à 70. Il y a toujours eu des bombes qui visaient des objectifs.
Les
boîtes à
d'État canadiennes.
Ou les postes, ou le ministère de la Défense, ou le ministère.
Ou les bureaux de recrutement de l'armée.
C'est ça, des signes de. Au début, c'était britannique, puis à la fin, c'était plus le gouvernement canadien.
Oui.
Et bon, mais c'était. Il n'y a pas eu. C'est pas comme en Irlande, il n'y a pas eu des milliers de morts. Il y a eu peut-être.
8 morts, je crois, 8 officiellement.
8 millions de morts, peu près. Puis là-dedans, je pense qu'il y a eu 2 terroristes qui ont sauté avec leurs bombes. Donc, c'est pas. Les gens me disent, ouais, mais c'est rien. Ben, c'est. Ça amène une certaine visibilité dans les médias et tout ça. Mais c'est vrai que ce n'était pas un mouvement de masse.
Oui, ça restait un mouvement assez marginal, mais qui était très identifié au Québec et très, très connu dans tout le Canada de manière générale. Parce qu'il y a eu quand même cette période charnière qui était le mois d'octobre 1970.
Ça, c'est la crise d'octobre.
Où il se passe beaucoup de choses. Il y a d'abord 2 enlèvements. L'enlèvement de l'attaché commercial britannique.
James Cross,
devant chez lui, et l'enlèvement d'un des vice-premiers ministres.
Pierre Laporte.
Voilà, Pierre Laporte.
Qui était vice-premier ministre aussi. On n'avait jamais cru que le gouvernement fédéral réagirait comme il l'a fait. C'est-à-dire sa ligne de conduite, c'est « on négocie pas, c'est non ». Alors là, ça nous a embêtés, parce qu'en Amérique du Sud, on voyait qu'au bout de 10 jours, 15 jours, les prisonniers étaient libérés en échange, les otages en échange.
Parce que là, la revendication, c'était de la libération, justement, de ces prisonniers indépendantistes en échange des deux otages.
You said earlier that this kind of violence, what you're fighting here, the kind of violence of the FLQ, can lead to a police state.
Sure. Well, that's what you're complaining about, isn't it?
At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that?
Well, just watch me. The society must take every means at its disposal to defend itself against the emergence of a parallel power which defies the elected power in this country. And I think that goes to any distance.
Pierre-Éliott Trudeau, qui était le Premier ministre, a eu, lui, tout de suite, une ligne très dure. Il y a notamment un moment qui est très connu au Canada et au Québec et un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est une interview télévisée dans laquelle un reporter lui demande « Jusqu'où irez-vous dans la suspension des libertés publiques ?» Et il a dit « Voilà, regardez-moi faire. » Deux jours après, il a appliqué des lois qui datent de la guerre.
La loi des mesures de guerre.
La loi des mesures de guerre.
Qui avait été appliquée justement pendant la guerre, comme s'il y avait un soulèvement appréhendé. Une espèce de soulèvement.
Qui donc est une suspension
de toutes les libertés.
Et notamment des droits de l'homme.
Exactement. En l'espace d'une nuit, ils ont arrêté, non pas les Felkistes. Moi, je pense qu'ils auraient pu nous arrêter, mais il y a même mieux nous surveiller. Et ils ont arrêté les artistes, les syndicalistes, les gens de gauche, qui étaient indépendantistes. L'idée, c'était de faire peur et d'essayer de montrer que c'était un mouvement dangereux d'indépendance, ouais, et de les associer à des personnages douteux, méchants, quoi.
Pendant 8 jours, Pierre Laporte a été détenu à Saint-Hubert dans une petite maison assez misérable. Il y est mort, étranglé par la chaînette qu'il portait au cou. Assassinat du FLQ, peut-être simplement mort accidentelle à la suite d'une bagarre très violente avec ses gardiens.
C'est pas un crime, c'est pas de l'avoir assassiné, c'est tout à fait accidentel. Il était détenu et à un moment donné, de lui-même, il s'est projeté dans une fenêtre voulant se sauver. Il s'est vraiment blessé gravement. Les gens qui étaient avec lui ne voulaient pas qu'il meure, alors ils ont proposé de le mettre dans le coffre de l'automobile pour l'amener à l'hôpital qui était tout à côté. Et là, évidemment, il a paniqué, il s'est... Et un des membres du FLQ l'a pris par le cou et sa chaînette et l'a étouffé, mais sans s'en rendre compte, c'est seulement par accident. Donc là, le gouvernement savait tout ça, il connaissait les intentions, il savait que les Felkistes voulaient l'amener à l'hôpital, mais cette version-là était tenue cachée. Ils ont plutôt présenté les membres du FLQ comme des tortionnaires, des assassins aux mains tachées de sang.
Ça a été comparé à l'assassinat d'Aldo Moro,
exactement. Et donc, tout de suite, l'engouement pour le FLQ, parce que les gens, au début, c'était un peu comme... Ils applaudissaient le FLQ, parce que pendant tout le mois d'octobre, novembre, jusqu'à l'arrestation le 20 décembre, il y avait comme une sympathie, mais après la mort de Laporte, là, le climat a changé.
Oui.
Et là, le fédéral a décidé de faire de Pierre Laporte
un martyr.
Et puis il y avait à l'église, là, tout un événement pour... Ils ont même le pont à Québec qui s'est appelé Pierre Laporte. On a essayé de valoriser le nom de Pierre Laporte pour effacer toute l'histoire du FLQ.
This law has never been invoked in peacetime. It suspends basic civil rights and liberties. It allows police searches and arrests without warrants and prolonged detentions without charges and without the right to see a lawyer. Hundreds of raids and arrests begin immediately.
J'ai été très déçu presque qu'on m'arrête pas. Tous les autres sont mis en prison. J'ai dit, bon, on ne m'a pas arrêté, c'est donc je dois avoir eu un rôle marginal.
Oui.
J'ai pensé que mon rôle avait été tellement marginal que...
Que ça valait pas le coup de vous arrêter.
Qu'ils ne m'ont pas arrêté. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'à partir de 71, l'espionne Carole Deveau me demande à 13 reprises soit de la dynamite, soit du papier officiel pour relancer le FLQ. De sorte qu'il y a eu un faux FLQ de la police, contrôlé entièrement par la police. Et moi, j'avais de plus en plus de doutes parce que, d'une part, j'ai rompu avec l'idée du terrorisme. J'ai vu que ça menait à un échec. Donc, j'ai pas continué à défendre le terrorisme. J'ai dit, on est allé au bout, on a échoué. Le gouvernement a toujours plus de moyens quand on n'est pas organisé, quand c'est pas un mouvement de masse, ça peut pas fonctionner. Donc, pour moi, le terrorisme a été combattu et j'étais clair là-dessus. Et en même temps, moi, à ce moment-là, je découvre le maoïsme, le marxisme-léninisme. Donc, je rompe avec le terrorisme. Mais donc, c'est le mouvement ouvrier. Et en même temps, je militais comme militant communiste. Et j'avais complètement oublié le FLQ.
Ouais.
Et c'est assez amusant parce qu'un jour, au département de sociologie, la directrice du programme me dit, c'est étonnant, on a un étudiant qui est un ancien policier à la retraite. Il aimerait ça te rencontrer. Il est même favorable. Il est même favorable au marxisme. Et il aimerait vraiment te rencontrer. Moi, je dis, Mais cette prof-là ne savait pas que j'avais été dans le FLQ. Oui. Mais plus tard, on a découvert que c'était le chef de l'escouade antiterroriste qui s'était présenté comme simple étudiant à la retraite avec le collet roulé et qui était à l'UQAM, au département de sociologie, et qui était favorable au programme marxiste. Pour dire un peu comment l'infiltration de la police, c'est vrai, là.
Petite parenthèse pour préciser un élément chronologique. À la fin des années 70, une commission d'enquête va se pencher sur le FLQ, également sur les activités policières qui ont entouré les événements d'octobre, et donc aussi sur les membres présumés de la cellule terroriste. Robert Como est alors interrogé à de nombreuses reprises par le juge en charge de cette enquête.
Tout le temps de l'année 79, je devais rester dans l'organisation Maoué. Je ne pouvais pas quitter parce que eux, si j'avais quitté, ils m'auraient dit « ben c'est bizarre hein? ». Alors, c'était un peu ma caution parce que je les informais. Quand un policier venait chez moi, je prenais la carte du policier, j'allais tout de suite la montrer au bureau politique, dire « bon, lui ». Donc, eux savaient exactement où je me situais. Donc, j'avais besoin... C'est pour ça que je n'ai pas quitté l'organisation, mais déjà vers 78, 79, je voyais bien que l'organisation pour un parti communiste, ça ne levait pas du tout, le nombre d'ouvriers ne ralliait pas. Bon. Oui. Alors, mais je ne pouvais pas me permettre de sortir avant que la commission finisse. Je ne pouvais pas quitter vraiment. Donc, j'ai quitté en 79-80, un peu en disant j'en avais assez de la commission d'enquête parce que là, j'ai été témoin vedette. On m'a menacé d'aller en prison si je ne parlais pas. Et c'est vraiment par un hasard. Pas un hasard. On a forcé le juge en ne parlant pas. Il m'a dit si tu ne parles pas, si tu ne réponds pas, qui a fait ça, qui a fait ça. Moi, j'ai dit, je dénoncerai personne. Alors, ils ont dit, dans 15 jours, si vous maintenez la même attitude de refus, ça sera la prison, quoi.
Oui.
Alors, 15 jours plus tard, on me ramène...
Outrage à magistrature.
Outrage à sa magistrature, exactement. Ouais. Alors là, j'arrive, j'étais certain d'aller en prison. Et là, le juge, par une circonstance, dit, là, vous me mettez dans une situation impossible. Parce que vous êtes deux militants communistes, mais l'autre militant qui est à côté de vous n'est pas un vrai communiste, c'est un indicateur qui sert à vous surveiller. Et moi, il s'appelait François Séguin, pour moi, c'était un ami. J'avais de la misère à imaginer la... Mais il m'a dit, le juge dit, M. Comeau, que si vous ne parlez pas, c'est parce que la personne à côté de vous vous empêche de parler. Donc, je ne peux pas vous envoyer en prison. Vous avez signé tous les deux un document disant que vous ne voulez pas collaborer avec la commission du juge Jean Keb. Je devrais vous envoyer tous les deux en prison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur-là, François Séguin, collabore avec moi, donc avec le juge Keb, à huis clos, sans que vous le sachiez. Donc, je ne peux pas vous envoyer seul, puis ne pas envoyer l'autre.
C'était qui, François Séguin?
C'était un étudiant qui avait fait une thèse sur le Parti communiste, donc un ami qui était venu chez moi. J'avais prêté mes livres et tout ça. Et c'est lui qui m'avait incité à rentrer dans le groupe marxiste-léniniste en lutte. Et il était devenu mon assistant dans mes cours. Donc, il me connaissait très bien. Et à chaque été, lui et sa femme me disaient, ben, viens avec nous en vacances, on va parler du groupe, qu'est-ce qui se passe à la commission politique. Donc, moi, je donnais de l'information privilégiée. Et lui, évidemment, informait la police.
Pourquoi il informait la police? C'était un revirement?
Il a été pris dans une opération en 71. Moi, en 70, je lui avais dit, tu devrais cesser... d'aller dans le... C'est fini, le FLQ. Le terroriste
n'a pas d'avenir. Aussi.
Il était resté FLQiste. Et au contraire, lui, il voulait relancer ça pour octobre 71. Et il tenait à rencontrer Carole Deveau parce qu'il trouvait que mon analyse n'était pas juste, que cette fille-là était correcte. Et finalement, ils ont fait une opération qui s'est soldée par un poste de police. Puis il y a eu un mort. Pierre-Louis Bourret a été tiré. Et c'est un jeune étudiant de 18 ans que j'avais eu dans mes cours et mort sur cette opération-là. Et François Séguin, qui faisait partie de cette opération-là, son nom a disparu au moment du procès. Là, il était plus 6, il était 5. Et là, on a fait enquête. Le groupe politique en lutte a fait enquête sur lui. Puis là, ils ont découvert qu'en fait, depuis 72, il avait remplacé Carole Deveau pour m'espionner. Le plus difficile pour moi, quand la commission d'enquête a fini, c'est que je suis allé le voir. Puis, explique-moi, je veux juste comprendre pourquoi tu as fait un geste comme ça. J'imagine que tu as été coincé. C'est soit la prison ou tu travailles avec la police. Et là, il m'a touché, voir si j'avais une arme sur moi. Et là, j'ai compris qu'il pensait que je voulais peut-être me venger. Mais j'avais pas l'esprit de vengeance, c'était juste de compréhension et de... Alors, ça a été assez dur. Là, j'ai eu une période assez déprimée. Je voyais plus trop qu'est-ce que j'enseignais à l'UQAM. J'avais même demandé peut-être de prendre un congé. Et on m'a donné la responsabilité de colloque à l'UQAM. Le recteur a été super, le recteur Claude Corbeau. Son frère est mort avec une bombe.
Oui, son frère était factiste aussi.
Donc, il y avait beaucoup de...
De liens affectifs.
C'est ça. Parce que moi, quand je suis revenu dans mon département, tu reviens, c'était presque un bandit pour... J'ai dit, ben oui, je reviens, j'ai pas eu de procès.
Est-ce que tout le monde a découvert en 79
C'est en 79-80, au moment de la commission, c'est rendu public. D'ailleurs, mon père a lu le rapport le 7 mars, puis il est mort le 8 mars 81, en lisant le rapport, une crise cardiaque. Alors là, tous les gens m'ont dit, ben, il était très malade, hein, tu sais. Mais quand tout le monde te dit, ne t'inquiète pas, il était malade, je voyais bien l'impact que ça avait eu, donc à court terme. Donc, ça a fait beaucoup de
dégâts,
de vous. Au niveau familial. Ouais. C'était compliqué.
Après des années de lutte parfois violentes, après des semaines de discussions parfois difficiles, le gouvernement du Québec vient de proposer une entente d'égal à égal entre la province et la Fédération canadienne. En fait, il s'agirait d'une sorte de troisième voie entre le fédéralisme et l'indépendance qui sera présentée mercredi aux Québécois. Monsieur Lévesque, le premier ministre québécois, a précisé que cette troisième voie sera soumise au référendum au printemps prochain.
En 80, du coup, quand arrive ce premier référendum qui laisse entrevoir la possibilité d'une concrétisation de ce pourquoi finalement vous vous étiez battu, c'est-à-dire un début d'autonomie du Québec, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous pensez que c'est jouable?
Au moment du référendum, mon fils dit « on va aller ensemble ». Et moi, j'avais prêché, j'avais... fait des discours en anglais sur le droit à l'autodétermination, mais pas le séparatisme, au contraire. Et là, au moment du vote, il me dit, tu peux pas être contre. Oui. Finalement, j'ai voté oui. Alors là, j'ai compris que j'étais pas un bon communiste. Parce que la ligne des Mao, c'était ni Trudeau, ni l'évêque. Donc, ni la bourgeoisie canadienne, ni la bourgeoisie québécoise. On présentait l'évêque comme celui qui voulait défendre les hommes d'affaires canadiens-français.
Il fallait pas soutenir son référendum, du coup.
C'est ça. On disait qu'on était pour le droit à l'autodétermination, mais que fait avec le Parti québécois, c'était simplement une mesure. Bon, à mon avis, on était dans l'erreur complètement. Et j'ai pas voté. Le pire, c'est quand j'étais dans le parti, dans le mouvement en lutte, on me payait un voyage pour aller faire des discours et tout ça. J'avais une conviction, mais plus ça allait, plus la date du référendum approchait. Je me disais, ça se peut pas qu'on laisse faire Trudeau. Oui. Puis que
vous ne vouliez pas voter non.
On ne voulait pas voter non. Alors, je me souviens que moi, j'avais dit, il faut annuler, pas voter. Alors, finalement, la position dans la lutte, c'était annuler. Puis l'autre groupe, c'était s'abstenir. Parce qu'on ne pouvait pas voter non.
Pas appeler à voter non. Donc,
et évidemment, le Parti québécois disait qu'on était des fédéralistes complètement vendus à Trudeau et tout ça. Moi, je n'ai jamais été fédéraliste. Je trouve qu'en France, vous auriez intérêt à voir comment fonctionne le fédéralisme, parce que ça s'en vient pas mal qu'en régime fédéral, je trouve, l'Europe. Et il y a des aspects négatifs qui sont importants.
Vous y croyez encore, Robert Comeau, pour terminer, à une possible indépendance, autonomie du Québec?
J'y pense pas à court terme. Je pense qu'à court terme... Il faut dire que les deux échecs, celui de 80 et surtout celui de 95...
Qui s'est joué à presque rien.
Qui s'est joué à 49.
À 54 000 voix.
C'est quoi, 51 à 49, c'est incroyable.
Avec une mobilisation énorme, 93% de votants.
Et je trouve que le chef, à l'époque, a fait une erreur catastrophique en quittant la scène, en disant « c'est fini ». Il aurait pu dire « on a perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie ». Alors, ça l'a découragé.
Le chef, c'est...
Parizeau,
oui,
qui avait promis que s'il ne gagnait pas, il se retirait. Et à mon avis, il avait annoncé d'avance qu'il quitterait parce qu'il ne voulait pas gouverner une province. Il voulait gouverner un État. Alors, il dit « je ne suis pas là pour gouverner ». Mais ça a fait à ce moment-là que le Parti québécois, à partir de ce moment-là, a commencé à décliner. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce qui est arrivé, c'est que les deux grands partis qui nous ont mobilisés, il y avait le parti des adversaires, le Parti libéral, est complètement écroulé aujourd'hui, puis le Parti québécois aussi. Alors, dans le Parti québécois, ceux qui sont indépendantistes encore vont rallier une petite formation qui s'appelle Québec solidaire, qui a 10 députés sur 125 et qui est assez d'extrême gauche. Moi, ils posent des conditions préalables telles qu'ils réussiront jamais à gagner comme ça. Parce que pour moi, le droit à l'autodétermination, on ne peut pas mettre des conditions. C'est comme le droit de la presse. On ne dit pas « je suis pour la liberté de presse », mais uniquement pour la presse de gauche. Ou on ne peut pas dire « je suis pour la liberté de parole », mais à condition que ce soit des discours de gauche. Alors, quand c'est un droit démocratique, comme le droit à l'autodétermination, je trouve que ce parti-là fait une erreur.
Merci à Robert Como pour cet entretien réalisé par Vincent Hiver pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.